Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct de nos studios de Micro Rebelle à Lens, comme chaque vendredi de 18h à 19h. Ou plutôt, c'est une nouveauté, nous sommes de nouveau en direct de nos studios de Micro Rebelle à Lens, comme chaque vendredi de 18h à 19h. Depuis la mi-mars, nous étions en confinement. Nos studios ont été complètement désertés pendant 2 mois. Ceci étant, notre activité s'est poursuivie différemment, à distance, sur la base d'échanges téléphoniques enregistrés ou via Internet. Et nos salariés bénévoles ont pu effectuer de nombreux reportages, notamment concernant cette crise du Covid-19, ses causes, ses enjeux. Reportages qui sont disponibles en podcast ou en téléchargement sur notre site micro-rebelle.fr. Donc depuis le début du mois de mai, nous mettons tout doucement en place un protocole de rentrée progressive dans l'attente d'une reprise complète et intégrale de nos activités. En direct donc sur micro-rebelle.fr, également avec l'appli de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, l'appli de la FRANF, et rediffusion chez nos amis de Radio PFM, le vendredi à 20h, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. On va démarrer ce micro-rebelle hebdo par un retour sur quelques annonces liées à l'agenda. Pendant 2 mois, on n'a eu strictement aucune annonce du fait du confinement. Et là, on commence à avoir des petites choses à vous dire, à vous annoncer. Typiquement, ce samedi, une manifestation organisée par le collectif Climat, une manifestation adaptée aux circonstances, bien sûr, adaptée à la crise sanitaire. Alors, ça se passe de 14h30 à 16h. Celles et ceux qui le veulent viennent déposer ou accrocher une pancarte avec un slogan ou une demande concernant le climat, la transition, et puis tout ce qui peut concerner effectivement cette problématique. Alors, accrocher une pancarte sur les marches du monument, sur les arbres, de la place de la gare d'Arras. Donc, n'hésitez pas, c'est un petit déplacement. On peut rester sur place sans se regrouper. Une deuxième annonce, ça n'est pas vraiment une initiative, mais c'est plutôt une mobilisation via Internet. Donnez votre avis concernant l'implantation de l'usine Clairboot sur le Dunkerquois. Alors, de quoi s'agit-il? La société belge Clairboot Potatoes souhaite construire une usine de transformation de pommes de terre sur les communes de Saint-Georges-sur-la-Haye et Bourbourg, à côté de Dunkerque. Cette usine, fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, produira quotidiennement 1400 tonnes de produits finis, essentiellement des frites surgelées destinées à l'exportation. Donc les signataires de cet appel pensent qu'il existe de nombreuses raisons pour s'opposer à ce projet et ce qu'il incarne. Odeur de friture et bruit persistant, pollution de l'air, surconsommation d'eau, conditions de travail dangereuses et abrutissantes. Ce projet titanesque impactera durablement le quotidien des habitantes et habitants des villes alentours. Reposant sur des pratiques agricoles monoculturales et dopées aux produits phytosanitaires, ce projet condamnera le futur de la région et sa sécurité alimentaire. Il y a donc une enquête publique valable jusqu'au 23 mai. Donc c'est vraiment le moment, c'est la toute dernière ligne droite pour se mobiliser. Il faut nous aider à faire pression sur les pouvoirs publics en rédigeant un avis défavorable à l'enquête publique. Alors typiquement, parmi les remarques, il y a la question des nuisances olfactives, sonores et environnementales, la question de la pollution de l'air, la question de la surconsommation de l'eau, les enjeux agricoles et climatiques. Alors que la crise sanitaire du Covid-19 met en lumière l'importante vulnérabilité du système alimentaire mondial et rappelle l'urgence de changer de modèle industriel, agricole et alimentaire, le projet d'implantation porté par Claire Bout paraît à contresens de l'histoire. Et on pourrait même ajouter que le monde d'après reste tout autant productiviste que le monde d'avant et bien ancré dans la société industrielle. Donc n'hésitez pas, pour répondre à l'enquête publique, ça se passe sur Internet, sur le site registre-numérique.fr. Donc vous faites une recherche sur l'usine de frites Claire Bout à Dunkerque. Voilà, donc c'était donc deux petites annonces concernant notre agenda social et culturel. Je pense que dans les semaines à venir, tout doucement, on va pouvoir vous proposer un agenda de plus en plus étoffé. L'actualité, donc on s'en doute, elle est évidemment toujours dominée par la crise sanitaire et ses effets. Alors ce qui domine cette semaine, c'est l'annonce du plan santé par Olivier Véran, ministre de la Santé. Un plan santé dans lequel il serait y compris question de revaloriser les salaires des personnels de santé et de revoir la politique hospitalière dans son ensemble. Il faut dire, et tout le monde est d'accord là-dessus, que l'hôpital va mal et que, si l'on peut dire, la politique de santé est en mauvaise santé. Emmanuel Macron a d'ailleurs dû reconnaître, je cite, « une erreur de stratégie », tandis qu'Olivier Véran indiquait, je cite toujours, « des discours, des lois, des logiques comptables qui auraient pu blesser, lasser, décourager ». Fin de citation. D'ailleurs, il ne s'est pas écoulé une semaine depuis le début de la crise du Covid-19 sans que ne soient mises en évidence les difficultés en matière de matériel, en matière de personnel, bref, en matière de moyens pour l'hôpital public et pour la politique de santé. La semaine qui vient de s'écouler n'a pas dérogé à la règle. On en a plusieurs exemples dans la presse locale. On commence par l'hôpital de Béthune avec cette interview du docteur Guillaume Dermot dans La Voix du Nord, je cite. « Il y a une colère forte », relate le docteur Dervaux. « Ça fait un an que les soignants disent qu'on sous-investit dans les hôpitaux publics, que la gestion de réduction des lits est une vision financière de l'hôpital, vont nous conduire à la catastrophe. On y est. Ça fait 2 ans que les urgences disent « Écoutez-nous, on ne peut pas gérer la santé comme ça. Qu'on ne nous explique pas après la crise que ça va continuer comme ça, parce que ça ne passera pas. C'est bien qu'il y ait des primes. Nous, c'est pas ça qu'on demande. On demande que l'infirmière soit correctement rémunérée. On demande une reconnaissance de notre fonction, notre utilité, et puis un outil de travail qui permette de bien faire son travail. » Que dans un hôpital, le bloc opératoire n'a pas été rénové depuis 35 ans, on ait les moyens de le faire. Il faut nous écouter maintenant. On n'est pas que des soldats de première ligne en crise aiguë. Le test, ce sera le rendez-vous en juin avec l'Agence régionale de santé pour le financement de la rénovation du bloc opératoire. Il y a une seule réponse possible, c'est oui. On verra alors si les règles ont changé. Et la Voix du Nord rappelle qu'en novembre, une marche de revendication était partie de l'hôpital pour rejoindre le centre de Béthune. La situation n'est évidemment pas très différente à l'hôpital de Lens. Et cette semaine, La Voix du Nord a ainsi pu titrer « Pénurie de médicaments, comment l'hôpital de Lens a évité le pire ?» Et en sous-titre « En moyenne, ces dernières années, la France déplore quelques 600 ruptures de médicaments par an après avoir délégué la fabrication de molécules à l'étranger. Avec l'explosion des demandes liées à la pandémie, la pénurie n'a pas tardé à se faire sentir jusqu'à l'hôpital de Lens qui a dû rationner ses stocks. La Voix du Nord évoque ainsi, je cite, « une filière dépassée ». Au plus fort de la crise, le service s'alarme de ne disposer que de 3 jours d'avance sur certains médicaments. Des sédatifs pour plonger les patients les plus graves dans un coma artificiel et des curares décontractants musculaires qui permettent de mettre en place la respiration artificielle. Fin de citation. Et Bruno Frima, chef du pôle pharmacie au centre hospitalier de Lens, évoque une espèce de système D. Je cite « On a ressorti des vieux médicaments qu'on n'utilisait plus, comme le Valium, qu'on a dilué au propofol pour économiser les molécules en tension. L'équipe de Réa avait déjà anticipé pour trouver des alternatives. Mais cette adaptation, à marche forcée, a sorti les équipes de leur zone de confort, ajoute la Voix du Nord. La pharmacie, qui travaille habituellement avec un seul fournisseur, voit ses sources d'approvisionnement se multiplier. On a reçu des médicaments de Chine, avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler, où la notice a été traduite en urgence par la NSM, des médicaments avec des concentrations différentes, pour lesquels il a fallu opérer des dilutions. Le risque d'erreur est plus important. Une source de stress supplémentaire pour les préparateurs dans ce contexte de crise. Et puis, toujours pour caractériser le délabrement de notre système de santé, il y a bien sûr cette question des masques qui revient inévitablement. Cette semaine, la Voix du Nord pouvait ainsi titrer « Face à la pénurie, l'Agence régionale de santé distribue 200 000 masques FFP2 ». Et en sous-titre, la Voix du Nord indique « Le feuilleton de la pénurie de masques n'en finit plus. Depuis lundi, les médecins et infirmiers libéraux rapportent des difficultés à se procurer des masques FFP2 en pharmacie. Pour tenter d'apaiser la situation, l'Agence régionale de santé, l'ARS, a lancé hier la distribution de 200 000 masques FFP2. L'article de la Voix du Nord précise « Pour les professions libérales, la galère continue. Dans un document destiné aux professionnels de santé en ville, le ministère de la Santé écrit « Les médecins et les infirmiers seront dotés en masques FFP2 quand les approvisionnements le permettront. » Dès lundi, les pharmacies ont reçu de nouvelles consignes. Pour les deux prochaines semaines, la distribution de ces protections est réservée en priorité aux dentistes, médecins spécialistes des voies respiratoires et professionnels en charge des tests de dépistage. Fin de citation. Rappelons que le masque FFP2 est un masque filtrant qui protège la personne qui le porte d'une contamination extérieure. À l'opposé, le masque chirurgical est un masque anti-projection qui protège les personnes extérieures. Mais revenons à cette question de la pénurie des masques en rappelant quand même que l'État avait un plan pandémique et qu'il y avait une industrie française du masque. Par exemple, avec l'usine de Plaintel dans les Côtes d'Armor, l'État avait investi plusieurs millions d'euros dans cette usine. Par exemple, entre 2006 et 2008, elle a produit 200 millions de masques FFP2. Et puis en 2010, une multinationale américaine a racheté l'usine et en parallèle, l'État cesse de passer commande de masques. La multinationale licencie 43 salariés sur 130. Le cercle vicieux s'enclenche, des clients s'en vont, les plans sociaux s'enchaînent alors que le groupe fait des bénéfices et profite des aides de l'État. En 2018, l'usine ferme ses portes et l'industrie française perd un de ses plus gros producteurs. Tout ça nous permet de revenir au plan santé, annoncé à grand bruit cette semaine. Deux titres, par exemple, dans La Voix du Nord. Premier titre, Olivier Véran promet un plan santé transgressif s'il le faut. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, poursuit La Voix du Nord, a promis hier d'aller plus vite et plus fort pour réformer le système de santé. Hausse de salaire, mais aussi assouplissement du temps de travail, seront au menu des discussions qui s'engagent lundi pour des conclusions attendues à la mi-juillet. Et un deuxième titre, toujours cette semaine, le ministre favorable à une hausse des salaires pour le personnel hospitalier. Olivier Véran a promis hier que le gouvernement va augmenter les rémunérations à l'hôpital et créer un cadre beaucoup plus souple au temps de travail en réponse à la demande de reconnaissance des personnels. Bref, l'État et son ministre de la Santé semblent vouloir empoigner le taureau par les cornes. Nous avons par exemple relevé les déclarations suivantes dans la bouche du ministre. Nous irons plus vite, nous irons plus fort. Des mesures d'ampleur, dans une certaine mesure radicale, sont nécessaires. Nous serons transgressifs s'il le faut. La norme pour la norme, la bureaucratie, la suradministration, tout cela n'a pas de sens et devra être revu. Il faut travailler à une augmentation des salaires, au-delà des primes. Olivier Véran a annoncé le lancement, poursuit la Voix du Nord, le 25 mai, d'un Ségur de la santé, avec une grande réunion multilatérale des partenaires sociaux au ministère afin de présenter un plan cet été pour traduire tout ce qui peut l'être dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Alors, que faut-il penser de toutes ces déclarations et de l'annonce de ce plan santé ? C'est vrai que quand on entend Emmanuel Macron reconnaître une erreur de stratégie ou Olivier Véran promettre d'aller plus vite et plus fort, on ne peut manquer de s'interroger. C'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et que tout le monde est susceptible d'évoluer. À moins qu'il ne s'agisse, une fois de plus, d'une opération d'enfumage largement teintée d'hypocrisie. Hypocrisie, c'est justement le terme que nos amis du Postillon ont choisi pour décrire Olivier Véran. Le Postillon, c'est le journal alternatif de la région de Grenoble. C'est en quelque sorte l'équivalent de notre journal régional, La Brique. Et Grenoble, c'est là qu'Olivier Véran a été médecin à l'hôpital et c'est là qu'il a été élu député. Autant dire que le Postillon a pris le temps de connaître Olivier Véran. Je vous précise que l'article du Postillon est disponible en ligne sur le site lundi matin, lundi.am. N'hésitez pas à le consulter dans son intégralité. Le Postillon a réalisé là un portrait tout à fait significatif de notre ministre de la Santé. Le titre de ce portrait, le cas Olivier Véran ou l'hypocrisie comme mode de gestion de crise. On en revient effectivement à l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est s'adresser aux soignantes et aux soignants en les rassurant et en pratique contribuer à la destruction du service de santé. Un extrait du Postillon. Sa nomination au ministère de la Santé n'a guère réjoui les membres du CIH de Grenoble. Le CIH, c'est le collectif interhôpitaux de Grenoble. Pablo, hospitalier, analyse. Il a toujours été inexistant dans la crise de l'hôpital, à part pour se faire mousser. Et pourtant, il connaît la situation. Le service neurologie, dans lequel il a travaillé, cumule les difficultés et manque de matériel et de personnel. Quand on travaille ici, on ne peut pas être au courant de la situation, on ne peut pas dire « j'ai été aide-soignant et médecin » et n'avoir rien dit, rien fait pendant les 8 ans où il a été élu. Il est soi-disant à fond derrière les soignants, mais il n'a jamais relayé nos combats. Une fois, il est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour parler de la situation dramatique de l'hôpital de Grenoble, mais c'était plus pour se mettre en avant que pour faire avancer la cause des soignants. Peu après, les problèmes semblaient avoir disparu de ses considérations. Fin de citation. Voilà, je vous renvoie donc à l'intégralité de cet article. Il est éclairant concernant le soi-disant plan de santé transgressif que nous promet Olivier Véran. Et puis la grande question concernant ce plan santé, c'est comment va-t-on le financer ? Les ministres et le MEDEF sont catégoriques. Ça va coûter cher et il va falloir être conscient des sacrifices qui nous attendent. En clair, c'est nous qui allons le payer au prix d'une cure d'austérité, au prix de licenciements massifs, au prix de la casse accélérée des services publics. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, l'a bien précisé, il n'est pas question de toucher à l'ISF, l'impôt sur la fortune, il n'est pas question de mettre à contribution les entreprises. En clair, pas touche au profit. On ne peut être plus clair sur ce qui nous attend si on laisse faire. Alors ne pas laisser faire. Aujourd'hui, vendredi 22, La Voix du Nord publie une belle photo de manifestation avec ce commentaire. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier au son des casseroles devant l'hôpital Robert Debray à Paris pour réclamer des lits et du fric pour l'hôpital public. Des soignants brandissaient des pancartes, blouse blanche, colère noire ou manager technocrate hors hôpital, entourés de gilets jaunes et d'élus comme le député La France Insoumise, Éric Coquerel. Fin de citation. Oui, ne pas laisser faire, c'est lutter. Le MEDEF, le pouvoir, vont défendre leur système, le capitalisme, vont défendre leurs actionnaires, leurs profits. C'est par nos luttes que nous pouvons changer la donne et les faire payer, eux. Eh bien, reportage maintenant, reportage sur les conditions de vie des étudiants Durant le confinement, et donc encore actuellement, puisque les cours n'ont pas repris, c'est un reportage qui nous est proposé par Elsa.
Alors que le déconfinement commence petit à petit, Micro Rebelle a interviewé Souad, une étudiante de Lille syndiquée à Solidaire, pour nous parler des conditions de vie et de travail des étudiants et étudiantes pendant le confinement et des perspectives pour elles et eux dans les semaines à venir. Elle nous parle de solitude, de violence, de précarité, de fractures numériques et des difficultés rencontrées avec des enseignants-enseignantes et la direction universitaire.
Je m'appelle Souad, je suis en master à l'IEP de Lille, en alternance, donc je travaille en même temps dans le domaine culturel, et je suis syndiquée à Solidaire étudiante Lille.
Nous, on s'intéresse aux conditions de confinement pour les étudiantes et étudiants, et on s'est rendu compte que c'était pas toujours évident, notamment pour les personnes qui restaient en chambre universitaire, mais pas seulement. Est-ce que tout d'abord, tu connais un peu en général les conditions de confinement pour les étudiantes et étudiants de Lille ?
C'est très variable. Effectivement, il y a les personnes qui sont confinées en résidence où c'est très compliqué. Ça a été particulièrement compliqué au début du confinement, notamment dans les résidences avec des espaces collectifs, donc avec des cuisines ou des salles de bain et où il n'y avait pas de matériel de désinfection à disposition. Certains espaces collectifs ont été fermés pour éviter les contagions, mais du coup, pas de cuisine pour cuisiner, c'est compliqué. Enfin, pour manger, tout court. Avec la fermeture des restaurants universitaires en plus, donc ça faisait des coûts supplémentaires. Donc ça a été très, très compliqué au début. Ça reste compliqué, ça l'est un peu moins parce qu'il y a du matériel qui a été mis à disposition. Il y a des assos qui ont commencé à faire des livraisons de colis alimentaires pour les étudiants, mais ça améliore qu'à la marge, finalement, les conditions de confinement. Puis rester enfermé tout seul dans un 9 mètres carrés, c'est toujours moins pratique et moins agréable que dans un appart un peu plus grand. Donc ça, c'est le cas dans les résidences. Après, en dehors des résidences, y a toujours les étudiants qui sont du coup seuls. Donc il y a le souci de la solitude et de se retrouver avec soi-même pendant 2 mois. Et ceux aussi en coloc qui doivent se supporter avec des personnes qui fréquentent pas forcément H24 de manière habituelle. Et après, il y a aussi des personnes qui se retrouvent dans des colocs avec tout le monde qui est parti à deux dans 100 mètres carrés. Donc, il y a des conditions aussi qui peuvent être moins pires, mais qui sont très à la marge.
D'accord. Ça, c'est pour la question de logement. Pour la question du travail, que ce soit le travail universitaire ou le travail salarié, est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus, les conséquences de ce confinement sur ces deux types de travail ?
Sur le travail salarié, ce qui se passe généralement pour les étudiants en grande majorité, c'est que c'est du travail au black. Donc c'est des babysitting, des cours, des extras dans des bars, et forcément il y a tout qui se casse un peu la gueule, qui ne fonctionne plus. Et du coup, il n'y a pas d'aide de l'État, parce qu'en fait, c'est pas déclaré. Donc il y a une perte de revenus qui est immense, et donc c'est ce que je disais sur les difficultés à s'alimenter notamment. C'est qu'en fait, il y a des étudiants qui se retrouvent sans ressources à devoir payer des loyers. Donc, ça a été très, très compliqué pour ces étudiants-là, qui sont quand même très, très nombreux. Et pour le travail universitaire, c'est une question de fracture numérique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étudiants qui n'ont pas d'ordi, qui n'ont pas un Internet qui soit solide, notamment en résidence. En fait, Internet dans les résidences, c'est de la grosse merde. Ça coupe tout le temps, il y a beaucoup de monde qui est connecté, surtout tout le monde est enfermé chez soi, donc tout le monde utilise Internet. Et du coup, il y a des coupures assez fréquentes. Enfin, quand on fait des réunions à distance avec le syndicat et ceux qui étaient en résidence, ça coupait toutes les 2 minutes. On ne pouvait pas tenir une discussion pendant ne serait-ce que 10 minutes qui soit suivie, quoi. Donc pour suivre des cours à distance, que ce soit des cours directement sur des plateformes ou même rendre des devoirs, télécharger les différents documents de cours, c'était une galère pour ces étudiants-là. Donc il y avait une inégalité énorme, et il y a une inégalité énorme dans l'accès au numérique et à Internet pendant le confinement de manière générale, qui n'a pas du tout été pris en compte par les universités.
Tu parlais de solitude tout à l'heure. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire concernant les étudiantes et étudiants dont la famille habite loin et qui du coup n'ont pas pu revenir chez elles et chez eux ?
Ça a dû être particulièrement compliqué. Je pense que ça a été d'autant plus compliqué pour les étudiants étrangers et étudiantes étrangères qui se retrouvent enfermées entre quatre murs sans forcément avoir une sociabilité forte dans les résidences et qui du coup peuvent pas rentrer chez eux. Et pareil pour ceux qui vivent dans le sud ou enfin moi j'ai dû rester aussi sur l'île parce que je travaille en télétravail mais que je savais pas quand est-ce que je vais potentiellement reprendre en physique. Donc c'est le lien avec les proches a dû être pour ma part a été très compliqué et je pense que ça a dû être compliqué pour beaucoup d'étudiants.
Alors, j'ai vu sur le site, sur votre site internet, donc Solidaire étudiants, étudiantes de Lille, que justement la section IEP avait fait un questionnaire à destination des étudiantes et étudiants pour voir un peu les conditions de confinement. Alors, je ne sais pas si tu as fait partie de la mise en place de ce questionnaire, mais est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ça, brosser un peu un paysage des réponses, quoi, de qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que vous en retirez, en fait?
Alors, moi, j'ai suivi un peu de loin la mise en place de ce questionnaire, j'ai lu les résultats. Ce qui est assez, assez impressionnant, c'est que finalement, les difficultés, même dans un IEP où généralement, faut dire ce qu'il y a, les étudiants sont quand même un peu plus favorisés qu'à l'université, ça reste très compliqué. Nous, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est notamment les violences intrafamiliales. On a eu quand même, un peu moins d'une vingtaine de réponses disant qu'il y avait eu des violences en retournant se confiner chez elle. C'est un truc qui nous a assez retourné, donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait aussi là-dessus. Mais oui, les résultats sont assez explicites et pareil, pas du tout pris en compte par l'administration de l'IEP. Il y a eu aucune. Enfin, il y a des ordinateurs qui ont été mis à disposition pour des problèmes de fracture numérique, notamment. Mais du coup, ça marche pour les étudiants qui sont restés à Lille. Et il n'y a aucune prise en compte de l'impact moral et mental de confinement sur les étudiants. C'est-à-dire qu'on est censé avoir un temps infini pour faire les choses. Et le fait que l'isolement, la situation de stress, d'angoisse soit présente, on s'en fout, quoi. C'est comme si on était en cours de manière classique et que juste c'était dématérialisé.
Et alors justement, par rapport à tout ce que tu dis, est-ce qu'il y a des revendications d'étudiants et étudiantes via des syndicats ou des collectifs sur ce qui aurait dû être mis en œuvre, soit par les directions d'université, soit par d'autres biais, pour justement faire attention à que ce soit l'accès à l'alimentation ou faire attention aux questions de violence dont tu parlais, ou un peu une attention aussi aux difficultés psychologiques dont tu parlais, dues à la solitude.
Alors sur la question de la solitude, je pense que c'était très compliqué à mettre en place ça a été compliqué que ce soit pour les étudiants ou pour tout le monde en fait. Je pense que c'est le confinement a été très dur mentalement pour quand même une grosse partie de la population. Après sur des choses concrètes qu'aurait pu mettre en place l'université ou le CROUS par exemple, c'est ce qu'on a revendiqué au début du confinement, le fait de valider les semestres tout de suite pour éviter justement qu'il y ait un poids supplémentaire sur les étudiants de devoir se battre pour se connecter, pour pouvoir rendre des choses alors que ça va pas forcément. Pareil, qui n'a pas du tout été entendu pour ce qui est des distributions alimentaires, maintenir les restaurants universitaires et leur ouverture. Et le fait que il y en ait beaucoup qui est fermé, ça a été très compliqué pour des étudiants en difficulté financière. Enfin, il y a aussi des choses qui sont mises en place parfois par le CROUS qui vont créditer un certain montant pour que les étudiants puissent alimenter en restaurant universitaire. Pour ces étudiants-là, du coup, il n'y avait plus cette possibilité d'alimentation financée et ça a été particulièrement complexe et ça a creusé la précarité et les inégalités. Je pense qu'aussi un accompagnement et une écoute de la part des corps enseignants et des différents UFR auraient pu permettre d'éviter aussi toute cette accumulation de charges mentales et d'angoisse chez les étudiants.
Et pour les loyers aussi, par exemple, que ce soit
pardon,
dans le privé
ouais, ou... oui, pardon, j'ai pas toute la liste en tête.
Non, mais non,
effectivement, pour les loyers, c'était une des revendications même nationales qui a été portée au niveau du CNUS, donc qui est le CRUS national, de la suspension totale des loyers jusqu'à la fin du confinement, ce qui a été partiellement fait pour les étudiants qui partaient, mais du coup, pour ceux qui sont restés... on s'en fout, ils se démerdent. Et pour même ceux qui sont partis, là, il y a une nouvelle directive qui a été mise en place, qui est de, en fait, si le 18 mai, les chambres n'ont pas été vidées, soit les personnels des CRUS viennent dans la chambre et virent toutes les affaires, soit les étudiants doivent recommencer à payer leur loyer à partir du mois de mai. Donc, clairement, les décisions prises vont à l'inverse de ce qu'il faudrait mettre en place. Favorise aussi la circulation du virus parce qu'ils obligent les étudiants à revenir dans leurs universités pour vider leurs chambres. Et derrière, on a des promesses gouvernementales de 200 balles pour l'ensemble du confinement qui sont complètement marginales et qui ne paient même pas un loyer. Donc, c'est absurde et c'est du foutage de gueule, en fait. Enfin, on est sur du grand foutage de gueule.
Tu veux dire qu'il y a un grand décalage entre les grandes promesses qui ont été faites, que ce soit par surtout par le gouvernement et puis la mise en place sur le terrain?
Ouais, c'est ça. Après, c'est pas forcément sur des grandes promesses et une mise en place de terrain. C'est que concrètement, le gouvernement, au début du confinement, disait qu'il y aurait des solutions, qu'il y aurait des solutions pour tout le monde et que ça allait bien se passer. Ce qu'on constate dans ce qui finalement a été mis en place par le gouvernement, c'est qu'il n'y a absolument aucune adaptation et aucune prise en compte des réalités de terrain. Et sur les réponses même financières, la grande annonce du gouvernement récemment, c'est 200 euros pour les moins de 25 ans, parce que quand tu es étudiant, forcément, tu as moins de 25 ans, puis quand on a plus, ça va, financièrement, tu es tranquille. Sauf que généralement, c'est aussi dans ces âges-là que les étudiants ne sont plus financés par leur famille. Donc, c'est aussi des étudiants très précaires. Et qui souvent font des tafs à côté, qui du coup n'ont plus de taf. Donc, en fait, on est sur des choses qui sont complètement en déconnexion avec la réalité de terrain. Et après, même localement, en fait, ce qui est mis en place, c'est extrêmement marginal. Ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est souvent aussi du jetage de fleurs. Enfin, le CRUS du Nord, c'est ça. On fait plein de choses. Là, ce qu'ils ont décidé, c'est un sujet un peu différent, mais sur une des résidences galloises, qui est une des plus insalubres des résidences de la MEL, de la métropole lilloise, ils ont décidé donc de vider un des bâtiments qui a une fuite d'eau là depuis un petit moment. Je pense que ça a dû être réglé depuis, mais qui a une fuite d'eau pendant 2-3 jours. Donc les couloirs étaient inondés. Ils ont décidé de vider la résidence. Et ils disent, c'est bon, on a la solution, c'est vidé. On propose un relogement qui est 90 balles de plus par mois. Hein, mais on propose un relogement, du coup, on a la solution. Donc, pour des étudiants qui galèrent déjà à payer leur loyer 270 euros par mois. Donc, on est sur des réponses à chaque fois qui sont... ils s'auto-congratulent d'avoir fait des choses qui, finalement, mettent encore plus dans la main des étudiants. Quoi.
Ouais, c'est pas du tout adapté, quoi, en fait.
C'est ça. Je trouve ça complètement hallucinant, la déconnexion par rapport aux réalités matérielles des étudiants et les décisions prises sont complètement hallucinantes. Mmh.
Donc là, aujourd'hui, le jour de notre entretien, on est le lundi 11 mai, qui est le début du déconfinement. Comment ça va se passer concrètement pour les étudiantes et étudiants?
Ça reste très flou. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de retour à l'université, dans les locaux en tout cas, jusqu'à la rentrée prochaine, si ce n'est encore après la rentrée prochaine. Il y a des annonces gouvernementales qui annoncent une non-réouverture des locaux en septembre. Donc on part sur quelque chose qui se pérennise au niveau des télécours et des télé-évaluations, ce qui est assez flippant vu comment ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est sur les universités, mais on reste dans le flou. Et en fait, tout le monde est dans le flou. Enfin, on sent que le gouvernement est dans le flou, on sent que les universités sont dans le flou. Tout le monde navigue à vue et du coup, ça augmente aussi l'angoisse des étudiants. sur les demandes dans les universités pour les masters ou les licences, pareil, il n'y a aucun décalage d'échéance. Donc du coup, les étudiants qui n'ont pas accès à des ordis, qui sont... Enfin, on a des histoires d'étudiants qui ont fait leur dissert sur leur téléphone. Donc pour faire une candidature sur un téléphone, c'est quasi impossible. C'est très flou à ce niveau-là. Sur les résidences et les demandes de bourse, il n'y a pas de décalage non plus d'échéance, avec un site qui bug à fond depuis une semaine, là. Donc pareil, sur les demandes de bourse, on ne sait pas comment ça va se passer, s'il va y avoir des décalages d'échéance ou pas. A priori, non. Pareil pour les résidences, demandes en résidence, on ne sait pas comment ça va se passer, quels critères vont être choisis. Là, il y a plusieurs résidences qui ferment à Lille, donc il y aura sûrement moins de places. Donc, du coup, plus d'étudiants dans la merde pour trouver des logements. En vrai, on est un peu sur un scénario catastrophe pour l'année prochaine et les mois à venir. On n'est pas très confiant sur ce qui va se passer par la suite, surtout dans la mesure où on n'est absolument pas écouté. Et on se fout de notre gueule, littéralement, quand on demande des mesures efficaces, quoi.
Tu veux dire que votre syndicat, donc Sud étudiants et étudiantes, est allé à la rencontre de la direction, c'est ça?
Alors en fait, on siège à différents conseils. Donc on a fait différentes propositions dans des conseils pour justement, notamment des propositions par exemple sur les évaluations synchrones, où tous les étudiants passent leur examen en même temps, ce qui crée des bugs de plateforme, qui est super compliqué quand on n'a pas un accès permanent à un ordinateur, etc. Enfin bref, ça c'est une des propositions qui a été faite avec une proposition d'un 12 améliorable pour valider le semestre. Ce qui a été fait dans ce conseil, donc c'est la CVU, donc où sont votés les règlements pour les examens. Donc on a déposé des motions pour changer le plan de continuité pédagogique de l'université, proposé par l'université. Les motions n'ont même pas été mises au vote, parce qu'on n'a pas demandé qu'elles soient mises au vote. On les a envoyées, on n'a pas dit « excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les voter ?» Et du coup, ils n'ont pas été mises au vote. Donc clairement, on nous a dit, pour le dire un peu crûment, de retourner jouer avec notre caca. Il n'y a aucune prise en compte de revendications étudiantes. Et donc là, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est de faire un recours au tribunal administratif contre les décisions prises par l'université. Ce qui nous a pris 3 semaines et énormément de temps et de travail. Et très franchement, on a autre chose à foutre, genre se concentrer sur nos évaluations, sur nos examens qui ne sont pas adaptés. Mais on l'a quand même fait. Et donc là, on attend le retour de délibération le 13 mai. Mais les seules manières d'être entendues, et encore, en tribunal administratif, on n'a pas tellement espoir que ça passe, c'est de passer par des voies juridiques qui sont ultra énergivores et qui sont pas du tout prioritaires, qui devraient pas être prioritaires, quoi.
Mmh. Et là, pendant toute cette période de confinement, est-ce que vous avez eu des appels d'étudiants et étudiantes? Est-ce que vous avez observé peut-être plus d'appels que d'habitude, des appels qui concernent plus justement ces situations précarisées?
Alors, on a reçu pas mal de demandes par mail d'étudiants qui nous ont envoyé des échanges mail complètement délirants avec des enseignants qui ne comprennent pas leur situation, notamment des situations de handicap, parce qu'il n'y a pas eu de centralisation du traitement des situations de handicap. Donc, c'est chaque enseignant qui devait adapter. Donc c'était quand même un peu compliqué à gérer pour elle. On a eu pas mal de retours aussi sur les CROUS. Les résidences CROUS, il y a eu énormément de choses qui ont été dites, soit qui nous ont été envoyées directement, soit il y a différents étudiants aussi qui ne font pas partie de syndicats ou de collectifs qui suivent beaucoup ce qui se passe dans les résidences CROUS, notamment Gallois, qui ont fait énormément de taf sur ces résidences-là et qui du coup ont aussi beaucoup de retours sur la situation des étudiants là-bas, que ce soit voilà, des coupures de chauffage, des fuites d'eau, des coups de pression de plusieurs directeurs sur des résidents qui venaient se plaindre. On a eu quand même énormément de retours très très, très, très alarmants et aussi un sentiment de rien pouvoir faire, quoi. En étant confiné chez soi, de se dire finalement qu'est-ce qu'on peut... Voilà, à part envoyer des mails ultra vénères et passer des coups de fil en disant « c'est n'importe quoi », bah, c'est compliqué en fait de mettre en place des actions.
Eh ben, merci beaucoup. Peut-être donner un contact où on peut vous joindre par mail ou par téléphone, je ne sais pas.
Yes, alors par mail, c'est sud, sud.lille.étudiant@gmail.com. Sinon, on peut nous contacter aussi sur directement sur notre page Facebook Solidaire étudiante Lille, par message directement. On est assez réactif. Mm-hmm. Enfin, mail et Facebook, on répond aux deux assez rapidement.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
C'était le groupe Mela, et comme toujours sur Micro-Rebelle, c'est de la musique libre. Donc on est toujours dans notre magazine à Micro-Rebelle Hebdo, disponible en direct hein, chaque vendredi sur microrebelle.fr et sur l'appli de la Franf, et rediffusion sur nos amis de Radio PFM 99.9 et en DAB+, émission disponible hein, en podcast et en téléchargement sur micro-rebelle.fr. On continue nos reportages et ce sera plutôt une lecture à plusieurs voix, une lecture pour soutenir les 10 personnes mises en examen parce qu'elles s'opposent au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure.
Depuis 2 ans, une instruction judiciaire s'abat sur des militants et militantes qui s'opposent à Cigéo, un projet pharaonique d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Dans le cadre de cette instruction, une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs. Elle concerne 10 personnes, qui sont mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Bien que présumées innocentes, elles subissent déjà une lourde peine. Les dites malfaiteurs et malfaitrices sont interdites de certaines parties du territoire, elles ont l'interdiction de se voir, de se parler et même de se trouver dans la même pièce. Dans une tribune publiée par Reporters et Mediapart le 30 avril dernier, les mises en examen prennent la parole et demandent la fin de cette instruction. Cette tribune a été rédigée par le biais de complexes allers-retours du fait de leur contrôle judiciaire. Nous la lisons à 7 voix.
Ne pas avoir le droit de voir des amis, leur faire courir un risque grave si on essayait malgré tout. C'est la douloureuse réalité de dizaines de millions de personnes depuis plus d'un mois. C'est la nôtre depuis bientôt 2 ans. 2 ans, rien que ça. Mais sans apéro, en visioconférence et sans coup de fil pour savoir si ça va. Rien que des bribes de nouvelles qui passent de proche en proche.
X a pas mal déprimé ces derniers mois. Mais ça va mieux, tu lui manques.
Y s'est marié, tu ne savais pas?
Z vient d'être ajouté au dossier, tu ne peux plus lui parler non plus. Je suis désolé.
Des choses comme ça, abstraites, désincarnées.
2 ans que le quotidien de nos vies et de nos luttes ont basculé. Tout a été soudainement arrêté, suspendu le temps d'un enfermement de plusieurs jours en garde à vue. Et tout a dû être réorganisé depuis, en entamant nos libertés fondamentales. 2 ans d'interdiction de se déplacer librement, d'interdiction de se réunir librement, de s'exprimer librement, de se défendre librement. Le risque ? Directement la prison. En détention provisoire, pour non-respect du contrôle judiciaire, comme l'un de nous en a fait l'amère et trop longue expérience pendant plusieurs mois.
Cette histoire ne commence pas avec un virus, mais tout comme. Elle commence avec l'idée de réunir les déchets radioactifs les plus dangereux produits par l'industrie nucléaire au même endroit, dans la Meuse, et de les enterrer 500 mètres sous terre, au mépris des générations futures, et surtout des populations locales actuelles à qui on avait promis un simple laboratoire de recherche et des emplois à la clé. Depuis 30 ans, une résistance se met en place, avec des hauts et des bas. En juin 2016, elle a trouvé un nouveau souffle avec l'occupation du site. En juin 2017, une instruction pour association de malfaiteurs a été ouverte en lien avec plusieurs manifestations et actions menées contre le projet. En juin 2018, après des mois d'écoute, de surveillance et d'intimidation, sont arrivées les premières mises en examen, assorties de leur contrôle judiciaire, s'apparentant d'ores et déjà à une peine.
Cela fait donc presque 2 années passées à se sentir les objets d'une traque d'État, à se méfier du téléphone, à ne plus parler de nucléaire qu'à voix basse, à ne plus pouvoir se projeter dans l'avenir sous cette épée de Damoclès. 2 longues années sous contrôle judiciaire, à ne pas pouvoir se prendre dans les bras, à ne pas pouvoir se donner des nouvelles, à ne même pas pouvoir accomplir ce geste humain d'écrire à un ami en prison pour lui dire qu'on pense à lui. 2 années à réfléchir à l'organisation de la moindre réunion pour ne pas se rencontrer, à se reposer sur d'autres pour se répartir les événements, à calculer à l'avance nos déplacements.
Tout ça pourquoi ? Peut-être parce qu'un ministre, oublié depuis, a voulu montrer ses muscles ? Ou parce que notre juge d'instruction espère une promotion en faisant du zèle ? Ou bien parce que Cigéo doit se faire coûte que coûte, afin que l'industrie nucléaire se perpétue ? En lisant ces articles dans la presse, qui ont le mérite de donner une vue d'ensemble de l'enquête, de ses moyens technologiques, de son ampleur et de sa puissance, on prend conscience d'une évidence qui vient se nouer dans le ventre. Nous avons été un laboratoire pour leur monde d'après. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne nous résignons pas à laisser ce mécanisme continuer de nous écraser. Nous voulons, nous devons l'enrayer.
Alors nous reprenons la parole pour réaffirmer 6 vérités simples dans cette affaire.
Premièrement, le nucléaire a toujours été et reste un scandale sans nom. Il nie toute démocratie, fait prendre des risques inconsidérés aux populations, polluent des territoires entiers, exploitent les populations des pays producteurs d'uranium et servent des intérêts financiers et militaires démentiels.
Deuxièmement, dans cette enquête judiciaire, malgré des mètres cubes de saisie de matériel, des gigaoctets de données saisies et les milliers d'heures d'interceptions téléphoniques, les mises en examen, dont la nullité a été soulevée par nos avocats-avocates, s'appuient sur des dizaines de milliers de pages d'une vacuité sidérale.
Troisièmement, cette instruction a déjà, à elle seule, coûté au moins 20 fois plus d'argent public que le coût des dégradations qui l'ont motivée au départ.
Quatrièmement, la mise en examen d'un avocat du mouvement et son interdiction par la même d'exercer dans le cadre de cette enquête est une atteinte grave aux droits de la défense. Elle vient s'ajouter aux nombreuses partialités des pratiques inacceptables dont le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a fait preuve à moult reprises envers les opposants au projet CIGEO. En témoigne un rapport édifiant et lapidaire de la Ligue des droits de l'homme en 2018.
Cinquièmement, l'instruction pour association de malfaiteurs sert essentiellement deux buts. D'une part, désorganiser la lutte contre CIGEO, et d'autre part, alimenter un renseignement de fond sur les mouvements contestataires français et européens.
Sixièmement, les contrôles judiciaires, maintenus bien au-delà de ce qui se pratique généralement, malgré la saisie de la Cour de cassation, ne sont en rien légitimés par les nécessités de l'enquête et ne visent qu'à nous faire taire en nous terrorisant et en nous atomisant.
Alors, ça suffit maintenant. Cette instruction et la restriction abusive de nos libertés doivent cesser. Nos avocats et avocates ont déposé une demande pour que nos contrôles judiciaires soient levés, pour que cette instruction cesse et que toute poursuite soit abandonnée. Mais s'il faut un jour affronter un procès inéluctablement politique, nous serons prêts et prêtes.
Bien, ce micro-rebelle hebdo se poursuit par un dernier reportage, ou plutôt un extrait de reportage, hein, puisque, étant donné le format de cette émission, nous ne pourrons pas le diffuser en entier. Un reportage sur la place des femmes durant la crise sanitaire, hein, durant la lutte contre le coronavirus. Elles sont, d'une manière générale, en première ligne. L'intégralité de ce reportage vous est d'ores et déjà disponible sur micro-rebelle.fr. C'est un reportage de Luc.
Moi, je m'appelle Patricia, je travaille à la DMR de Bapaume. Je suis auxiliaire de vie depuis 20 ans et j'assure la continuité des services auprès des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, pour les actes essentiels à la toilette, repas, lever, coucher.
Je m'appelle Amandine, je suis aide-soignante dans une EHPAD, c'est-à-dire je leur donne à manger, je fais leur toilette, je les accompagne en fait pour tous les gestes de la vie quotidienne.
Donc je m'appelle Christine, je suis consultante indépendante et parmi mes activités, je fais des intérims de direction en établissements médico-sociaux et en l'occurrence depuis quelques mois, je fais un intérim de direction dans un EHPAD de la région parisienne.
Je suis une femme, bien entendu, de 57 ans bientôt. Je suis employée de maison avec un F, puisque j'ai plusieurs employeurs. Et en même temps, dans ces employeurs, je suis employée de pharmacie.
Je suis Guylaine, je suis formatrice en école d'infirmiers dans le Nord.
Je suis infirmière dans un service de Covid.
Je suis infirmière au bloc depuis 17 ans, un bloc pluridisciplinaire dans un milieu hospitalier. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, voilà.
Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, les femmes représentent presque 70% des forces de travail dans la santé à travers le monde. Elles sont donc en première ligne pour mener la bataille contre le Covid-19. Elles assurent en outre la majorité des tâches domestiques et d'éducation auxquelles s'est ajoutée l'école à distance et parfois le soin à un parent âgé. Elles sont pourtant moins représentées dans les instances de décision du secteur de la santé et du soin et ont un salaire en moyenne moindre du fait de l'accès restreint à certains postes valorisés. On s'aperçoit avec la crise sanitaire que les travailleuses font tourner les rouages des services vitaux. Elles sont aides à domicile, aides-soignantes, auxiliaires de vie, infirmières. Elles sont au cœur du conflit entre les besoins collectifs et l'exigence de profit. Elles témoignent de leurs expériences depuis le début de l'épidémie, avec différents niveaux de risque face aux dangers, de leurs conditions de travail, de leurs attentes légitimes en matière de reconnaissance sociale et professionnelle.
depuis le début du confinement, bon, on a quand même changé notre méthode. On intervient maintenant, on a des gants, on a des masques, on a un protocole à suivre, bien sûr. On est tenu au courant s'il y a des personnes qui sont atteintes du virus. Pour l'instant, on a la chance de ne pas en avoir. Sinon, on est équipé, on a vraiment, point de vue notre responsable, on est tenu au courant, on a souvent des messages qui nous soutiennent pour le travail qu'on en fait, quoi, qui disent que il faut quand même qu'on aille travailler, on est obligé. Après, ils nous disent aussi, si jamais on commence à être malade, bien sûr, il faut qu'on reste chez nous, surtout pour la santé de nos patients, quoi.
Depuis le début du confinement, c'est-à-dire que nous, on a eu des cas assez tardivement, pas tout de suite. On a eu en fait des entrées chez nous, dans notre résidence, d'autres services. Et en fait, voilà, on a su 14 jours plus tard qu'elle était atteinte du Covid. Les gens étaient confinés déjà en chambre, donc c'est-à-dire qu'ils ne voyaient personne, plus de visite de l'extérieur. Les soignants portaient des masques, des gants. Justement ça d'ailleurs, on est tombé en pénurie de masques et de gants, de surblouses.
Depuis le confinement, donc je travaille à distance puisque moi je suis dans les Hauts-de-France, tout en visio ou en conférence téléphonique, qui évidemment est beaucoup moins simple. Et avec un mot, je pense qu'il serait le mot à retenir de toute cette période, même si elle n'est pas encore terminée, c'est adaptation. Adaptation permanente à tout ce qui arrive, à l'évolution de ce virus, aux recommandations ou doctrines que l'agence régionale de santé nous envoie, à la réalité de la vie à l'intérieur de l'établissement.
Alors je ne parle pas salaire. C'est pas ce qui me préoccupait le plus au départ. Ce qui me préoccupait, c'est de ne plus les voir, de ne plus aller les aider, en sachant que pour l'un d'entre eux. Il a 83 ans. Ça m'ennuyait de savoir que je n'allais plus pouvoir faire ce que je faisais pour lui depuis ces derniers temps. Alors j'ai deux de mes employeurs, parce qu'en fait je travaille pour 6 employeurs différents par semaine. Donc sur les 6, il y en a 2 qui m'ont demandé de rester chez moi. Ensuite, pour la pharmacie, c'est toujours les mêmes tâches, à part que les conditions sont différentes. Donc, ce que je fais en arrivant au matin à 8h, avant l'ouverture de la pharmacie.
Reportage à suivre donc sur micro-rebelle.fr. Reportage très chouette et très intéressant. Ce micro-rebelle hebdo est terminé. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous. Bye bye.